Renault Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue en direct sur Radio Immo, Radio Territoria et puis sur le YouTube Bâti Radio. On est en direct du forum Renault Days. On vous fait vivre cet événement pendant 2 jours. C'est la seconde édition et on est ravis de maintenant consacrer ce moment à une table ronde sur un enjeu majeur. Comment passer du projet exemplaire à la massification concernant la rénovation énergétique? Vous le savez, on parle de rénovation énergétique sur ce forum et on accueille donc l'équipe de prestataires qui propose cette table ronde, parce qu'aujourd'hui la rénovation énergétique ne peut plus se limiter à des opérations pilotes. Il faut changer d'échelle, structurer, industrialiser et surtout faire confiance aux acteurs de terrain. Avec moi, Karine Thomas, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Comment ça va?
Très bien.
Directrice générale de Prestataire, un petit mot sur Prestataire.
Alors Prestataire Certification est l'un des 4 organismes accrédités par le COFRAC pour certifier la performance globale du bâtiment.
Avec nous également Muriel Attolini, bonjour.
Bonjour.
Présidente de Rénover pour Demain, une petite présentation de Rénover pour Demain.
Alors nous sommes opérateurs ensembliers de la rénovation énergétique, essentiellement en copropriété, alliant une brique métier à une brique financement.
Tout simplement. Et puis évidemment Guillaume Meunier, bonjour.
Évidemment, ça me fait plaisir.
Oui.
Bonjour.
Et ben oui, que ferait-on sans vous, consultant à l'IFPEB? Consultant bas carbone.
C'est ça. C'est mon sujet, le carbone.
Alors, l'IFPEB.
L'Institut français pour la performance du bâtiment, un institut qui fait réfléchir toute la filière sur sa décarbonation.
Et ben voilà. Et alors, consultant bas carbone, parce que vous êtes un spécialiste.
C'est mon dada. C'est,
voilà.
J'en mange.
Bon, on va commencer par un constat. On va parler des enjeux de la massification. Pour commencer, on va peut-être poser le décor. La France s'est fixé des objectifs ambitieux. 200 000 rénovations performantes par an d'ici 2030. Un parc de logements bas carbone d'ici 2050. Mais sur le terrain, vous le savez, on peine encore à passer de la démonstration à la généralisation. Alors Guillaume, on va planter le décor avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux rapide? Où en est-on aujourd'hui justement dans cette massification? Quels sont les chiffres clés à retenir et surtout les principaux freins identifiés?
Alors tout ça dans une question, ça va être complet.
Oui. Vous avez un peu de temps, hein, n'hésitez pas.
Ça va être compliqué. Déjà rappeler que en France, la filière du bâtiment, c'est 30% des émissions carbone, un petit peu moins, mais c'est l'ordre de grandeur et assez facilement, on peut dire, le premier émetteur de gaz à effet de serre. Dans ce paquet-là, l'existence, c'est les 2/3. Quand je parle de l'existence, c'est les consommations d'énergie. Donc beaucoup de gaz, mais de l'électricité aussi. Donc on a un vrai paquet. Quand on dit il faut décarboner, la France a une trajectoire de décarbonation, le monde du bâtiment et l'existence, c'est un poids lourd. À pas négliger, et je pense qu'on y reviendra, il y a quand même un enjeu sur la matière. Parce que j'ai parlé d'énergie, mais la matière qu'on utilise dans le neuf et dans la rénovation est aussi très émetteur de carbone. On y reviendra un peu plus tard, mais on a bien ce double sujet. Avec un point important, c'est quand on parle de rénovation, j'ai attaqué directement sur le carbone, mais la rénovation, c'est aussi plein d'autres sujets. C'est la facture des habitants, qui peuvent être pas tout à fait corrélés au carbone. Hein, en tout cas, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et finalement, on va dire le carbone, c'est pour la France et pour le futur. La facture, c'est aujourd'hui pour les habitants. On a aussi le sujet qui enfin commence à émerger sur le confort d'été. C'est-à-dire que les gens s'aperçoivent, bah oui, j'ai trop chaud et tendanciellement, ça ne va pas aller en s'améliorant. Un chiffre que je cite assez souvent en ce moment là-dessus, c'est que dans les années 50-60, il y avait 2 canicules par décennie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, c'est 2 canicules par été.
Ouais, donc on est passé des pics de chaleur.
Voilà, et on dépasse les 40 degrés maintenant régulièrement en France. Pas encore tout à fait à Paris, même si ça devrait pas tarder. Donc il y a un peu ces 3 sujets-là. On voudrait décarboner, la facture des habitants, le confort d'été. Et tout ça, c'est un très fort impact. Du coup, la rénovation, c'est le sujet majeur, mais malheureusement, jusqu'à présent, ça a été un peu le sujet mineur. Hein. J'entendais ce matin un podcast qui parlait de gens nouvelles. Dans l'architecture et dans les projets, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de neuf. Moi, je parle beaucoup de RE 2020, et on y reviendra. Mais sur la rénovation, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un grand cadre. Alors, on peut parler, il y a le décret tertiaire, mais qui s'applique que au tertiaire et pas au logement, et qui vise juste à réduire les... Alors, quand je dis juste, il faut bien comprendre, Il vise déjà à essayer de réduire les consommations des bâtiments tertiaires.
Oui, c'est un gros pavé quand même, le décret tertiaire.
C'est un gros pavé, et juste les consommations. C'est un peu que ce sujet-là. Dans le logement, dans la rénovation, on a à peu près tous les problèmes, mais pas les problèmes techniques. Et c'est ça aussi un point important, c'est que dans le monde du bâtiment, on a cette chance, c'est que finalement, les problèmes techniques, on sait, là, il y a une étude sortie par l'ADEME qui reconfirme les pompes à chaleur, je vous le fais très simple, c'est génial. On n'a pas de problème, on sait décarboner, on sait utiliser les bons matériaux, etc. Là où on a des problèmes, c'est tous les leviers autres politiques. En ce moment, on est gâtés, hein, je ne vais pas y revenir, de gens qui savent bien faire les rénovations, de maîtrise d'ouvrage, qui savent proposer les solutions, ou se faire accompagner. On doit embarquer toute une filière. Hein. On est dans un monde où c'était le neuf, les enjeux du neuf, et finalement, peu importe la rénovation, et puis on en fait par petites touches, et on essaye à chaque fois, tous les ans, on se fixe des objectifs 200 000, ça peut être 250 000, les années, on dit, on va faire 300 000,
qui dit plus.
Voilà, mais à un moment donné, derrière, il faut des sous, des compétences, il faut embarquer, il faut des écoles, il faut des architectes, des ingénieurs, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on est dans ce momentum où depuis jusqu'à présent, quand il y avait des crises dans le bâtiment, et on est en crise dans le bâtiment, hein, on n'a pas de ministre du logement hein, dans le dernier non-gouvernement qu'on a.
Qu'on a eu, du coup.
Qu'on a encore, il est encore là, hein. Il est démissionnaire, mais il est encore là. On s'est beaucoup focalisé sur la partie neuve et on a bien avancé, on est bon. Alors là, on essaie d'éviter le backlash, hein. C'est un peu mon job en ce moment.
Backlash pour nos auditeurs ?
De retour en arrière, on essaie de revenir en arrière, on se dit finalement les RE2020.
Au niveau des normes, c'est ça ?
Voilà. Mm. Est-ce qu'on enlèverait un peu de RE2020 parce qu'elle est compliquée, c'est faux ? Donc on est dans un momentum où les crises jusqu'à présent c'était bien, c'est quand il y avait une crise sur le logement, le tertiaire rattrapé, et puis quand on avait un peu du mal sur le tertiaire, c'était le logement, et puis sinon on faisait pas mal de réno, et bon an mal an les crises y en avait, mais ça passait. Là on a une crise un peu globale où le neuf c'est assez atone, logement et tertiaire. Et on est en train d'essayer de se dire, mais la rénovation, c'est le sujet, il faut qu'on y aille. On a vu cette année, avec ma prime Rénov, les 5 premiers mois, c'était la folie, tout le monde s'y est mis. Et du coup, à un moment donné, on dit, stop, vous faites trop de Rénov, il faudrait qu'on ralentisse, attention, surtout ne faites pas trop de Rénov. Enfin, et ce qui fait que c'est un peu gênant, on s'est dit, c'était la bonne nouvelle du début d'année, ma prime Rénov fonctionne hyper bien, tout le monde y va. Tout le monde commence à comprendre que finalement, la crise de neuf, si on veut résoudre ce problème, on va devoir massifier la rénovation. Les grandes entreprises s'y mettent, même mettre des filiales spécialisées sur la rénovation, des regroupements d'acteurs qui se disent on va faire de la rénovation. Et puis voilà, il y a ce mouvement de battement où pas de direction de l'État, on dit ma prime rénov', on va la revoir à la baisse. Voilà un peu l'état où on en est, alors qu'on sait que fondamentalement, la rénovation, c'est pas si compliqué que ça quand on est bien accompagné. C'est pas si compliqué d'être bien accompagné, mais enfin, après, la rénovation, il faut aussi savoir en tête, c'est que c'est beaucoup de maisons individuelles, de particuliers, de petites copros. Et la petite copro, qu'est-ce que je fais ? Moi, j'ai eu une question ce week-end, c'était « Guillaume, est-ce que quand je refais mon enduit, j'isole ?» Parce que c'est un habitant, c'est un habitant. Hein, c'est pour nous là, quand on en discute entre nous, on va dire mais oui, t'isoles. Enfin, il n'y a pas de photo. Mais pour un habitant, si il en a jamais discuté, et que c'est des assemblées de copro,
c'est pas évident quand on n'est pas du secteur. Voilà.
Et puis après, quand on discute, on leur dit mais en fait, la rentabilité, elle arrive assez vite, même si il faut pas s'attendre non plus à des rentabilités sur un an, deux ans, mais assez vite, t'améliores ton confort et puis tu revois tes protections solaires et t'embarques tout le monde. Et là, les gens disent ah mais ouais, mais t'as raison. Je vais en discuter en copro. Moi, petit particulier, je vais en discuter en copro.
Et j'ajouterais peut-être pour préciser aussi que les obligations de rénovation concernent pour l'instant, concernant le logement, uniquement les propriétaires bailleurs.
Oui.
Et ça, c'est important de le préciser aussi.
Oui.
Parce que c'est vrai que y a d'un côté des gens en copropriété, donc les propriétaires occupants qui n'ont pas d'obligation, donc qui rénovent, vous l'avez dit, hein, pour des questions de confort, de réduction des factures. Et en revanche, il y a les propriétaires bailleurs, donc ceux qui louent leur logement à des locataires qui sont obligés d'avoir une bonne étiquette énergétique. avec le DPE.
C'est ça. Et alors si, oui, voilà, très bonne remarque, le DPE a quand même aussi été un beau marqueur. Voilà, compliqué. Quand je dis tout ça, je cache pas, et on pourrait s'étendre sur les défis, mais le marqueur qui est quand même génial, de dire à terme, les logements les pires, on va devoir arrêter de les louer, quoi. Les passoires thermiques, ça va 2 secondes, les bouilloires thermiques, ça va 2 secondes, on va devoir les transformer. L'État avait fixé une belle ambition, c'est comme la trajectoire de décarbonation, on peut tous la lire, elle n'est pas très compliquée, on voit où on va aller. Et toujours ces retours arrière sont toujours un peu gênants. Et ce que je voulais, on entend parler des bailleurs, je travaille aussi avec beaucoup les bailleurs sociaux, et il y a plein d'acteurs qui sont hyper engagés, hein, je dis ça.
Action Logement, que j'ai reçu ce matin, ils sont en avance sur leurs objectifs.
Mais on pourra en discuter sur les travaux, ils font des trucs de dingue. Enfin, ouais. Moi, je ne sais pas de les ralentir, mais à un moment donné, faut que je suive, quoi.
C'est vrai.
En fait, on peut discuter précisément, mais ce qui manque fondamentalement, c'est qu'on ait cette trajectoire et qu'on la garde. À un moment donné, qu'on arrête, on se dit c'est ça, on fait ça, on change rien.
Donc ça, c'est une de vos craintes, le retour en arrière.
Bah alors, il est en train d'essayer d'advenir. Moi, mon job, c'est qu'il n'advienne pas. Hein, le retour arrière environnemental, mon job, c'est qu'il n'advienne pas. Moi, j'aimerais bien avoir un monde vivable pour mes filles et pour moi, accessoirement. Et plus que le backlash, c'est les stop and go. C'est on fixe une trajectoire, on met les moyens derrière, on embarque les gens. Une entreprise, quand elle veut se transformer, c'est pas en 6 mois qu'elle se transforme. Une entreprise, quand elle doit se transformer, elle doit former, embaucher des gens, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place la formation, embaucher les gens qui soient formés, que la maîtrise d'ouvrage elle soit formée aussi, parce que c'est un nouveau métier. Le promoteur d'aujourd'hui qui n'a fait que construire, quand il doit apprendre à rénover, ben c'est un métier nouveau pour lui. Il va y arriver, hein, mais c'est différent. Donc, la vision qu'on peut donner, de se dire c'est là où on veut aller, on veut arrêter les bouilloires thermiques, on veut que les gens puissent vivre décemment dans leur logement, que la facture d'énergie qui va tendre à augmenter avec la pression environnementale, le contexte. Il y a 5 ans, quand je parlais aux gens, je leur disais attention, le gaz, on ne connaît pas le prix du gaz dans 3 ans. Il y a 5 ans, les gens me regardaient, ouais, mais bon, le gaz. Maintenant, quand je dis le gaz, vous savez, Poutine, c'est bon, c'est clair. Donc, la trajectoire de décarbonation sur le neuf, elle est globalement claire si on ne revient pas en arrière. Et puis, on voit certains leviers qui ne marchent pas très bien, on en discute des chiffres, etc. Sur la rénovation, on sent bien que c'est un enjeu majeur. Il y a eu des choses qui ont été engagées sur MaPrimeRénov, etc. Mais juste, faut arrêter de stop and go.
Alors ce matin, il y avait les présidents de syndicats qui représentent les secteurs du bâtiment, hein, les entreprises du bâtiment, etc. Les distributeurs qui nous disaient que c'était même carrément plus du stop and go, c'était du stop tout court.
Alors j'ai un côté très positif, hein, dans mon métier. J'aimerais bien qu'il y ait un rego qui revienne.
J'entends votre côté positif.
D'accord.
Muriel, Karine. Alors Muriel, en tant qu'actrice de terrain, justement, comment vous percevez cette difficulté à changer d'échelle? Est-ce que c'est un problème de financement, d'organisation, de cadre réglementaire? Quelles sont votre analyse du terrain?
Alors un petit peu tout ça en même temps. Moi, quand j'ai fondé Rénover pour Demain, fin 2023, mon objectif était justement d'accélérer, de simplifier, de traduire pour que les opérations de rénovation énergétique aboutissent. Parce que j'ai pu constater en 10 ans, on va dire, de travail en tant que bureau d'études thermiques, parce qu'à la base, je suis ingénieure en système énergétique et énergie renouvelable avec une spécialisation en assistance à maîtrise d'ouvrage. On arrivait très rarement, en fait, à faire aboutir des travaux performantiels avec une vision globale, parce que il y avait beaucoup trop d'acteurs. Enfin, il y a encore beaucoup trop d'acteurs qui parlent pas le même langage, et on n'arrive pas du coup à recoller, on va dire, un plan de financement clair face à un programme de travaux défini qui va permettre une décision aux propriétaires ou aux copropriétaires de manière, on va dire, éclairée et sereine. Donc ça, c'est un des principaux freins pour pouvoir faire aboutir ces opérations de rénovation énergétique. Donc nous, on est là pour ça. On crée en fait en interne un outil numérique très opérationnel de terrain, basé sur notre brique métier et sur la brique financement qui est en train de se construire. Donc en fait, on est l'interlocuteur unique pour tout projet de rénovation énergétique, allant de la phase étude jusqu'au suivi de consommation, parce qu'on a pour objectif en fait de garantir les résultats en termes d'économie d'énergie
à la fin, des travaux.
À la fin des travaux, et non plus de travailler sur des obligations de moyens qui in fine n'apportent pas grand chose. Et pourquoi de garantir ces résultats en termes d'économie d'énergie pour pouvoir rendre la rénovation énergétique à la portée de tous et faire de la rénovation énergétique un produit rentable. Parce que tant que la rénovation énergétique ne deviendra pas rentable...
Rentable pour qui que...
Alors, rentable pour tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui puisse investir en fait sur...
Pour le consommateur final, enfin pour celui qui fait des travaux, hein, on est d'accord.
Et pas que, même pas pour que. L'investisseur. Mmh. C'est-à-dire que les banques puissent, on va dire, financer les opérations de manière sereine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun... on y travaille, on y arrive petit à petit, mais il n'y a pas de sécurisation financière, parce qu'on a encore du mal à sécuriser le risque technique. Donc nous, on travaille, et notamment en partenariat avec l'organisme prestataire, à sécuriser le risque technique qui va permettre la sécurisation financière et qui va permettre aussi de construire un cadre juridique clair qui le tout formera quelque chose de solide et surtout un nouveau modèle économique clé en main, donc le nouveau promoteur de la rénovation énergétique à terme, voilà, c'est vraiment notre volonté. Et d'ailleurs aujourd'hui on a appris qu'on avait enfin eu notre RGE offre globale, donc pour nous c'est déjà quelque chose d'énorme et on va pouvoir commencer à vendre notre offre en tant que contractant général sur notre vision finale.
Alors RGE, c'est reconnu garant de l'environnement hein, pour nos auditeurs. Karine, alors comment vous travaillez avec Muriel, comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait le partenariat?
Alors moi j'ai contacté Karine il y a déjà 2 ans et demi, je dirais.
Ouais.
Facile. Dans le cadre en fait de la réponse à un appel à projet France 2030. Ouais. Et quand je suis tombée sur quand j'ai fait mes petites recherches, ta manière de travailler a fait sens avec ma démarche et du coup je l'ai appelée pour savoir si elle voulait bien être partenaire dans ce projet France 2030 et c'est là où l'aventure a démarré.
Voilà.
Alors sur le terrain, comment ça se passe concrètement justement?
Ça se passe que, alors il faut bien comprendre juste que pour prestataire, la certification joue un rôle central dans la massification parce que la certification apporte une démarche, une approche en fait structurée, un cadre commun. On parlait tout à l'heure de langage, mais c'est ça, hein, c'est aussi de permettre en fait d'avoir un langage commun entre les différents acteurs techniques, institutionnels.
Donc parler la même langue.
Les financeurs parler la même langue, parce que en réalité le rôle du certificateur à travers ses référentiels, c'est de traduire des objectifs en exigences concrètes, vérifiables, mesurables. Hein, le rôle du certificateur, en réalité, c'est de structurer la démarche, de fiabiliser les opérations, puisque, comme le disait Muriel tout à l'heure, pour les financeurs, il faut un tiers de confiance et il faut l'assurance que les objectifs qui sont fixés au départ sont bien atteints. Donc c'est vraiment le rôle de certificateur qui va, dès le début de l'opération, intervenir et valider que les exigences qui ont été visées, le label choisi, va bien être atteint. Donc en fait, on atteste aussi de la conformité de l'opération vis-à-vis des exigences qui ont été sélectionnées.
Et justement, si vous devez faire un point sur le terrain, là, par rapport à ce qu'on s'est dit, à l'état des lieux, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous aussi, vous êtes un acteur des terrains? Vous êtes même en première loge, puisque votre rôle commence au début des projets, avant même, dès la conception. Qu'est-ce que vous constatez justement concernant ce qu'on s'est dit, cette rénovation énergétique, l'état des lieux?
L'état des lieux, c'est que, on en a parlé, hein, du bilan et du nombre de logements à rénover et des passoires thermiques, c'est près de 900 000 logements, je crois. Nous, en tant que certificateurs, on voit que la massification de la rénovation énergétique, elle se fait plus difficilement que la massification de la performance dans la construction neuve. Parce que dans la construction neuve, il y a aussi des financements qui sont présents depuis longtemps. Les bailleurs sociaux construisent de manière vertueuse depuis des années. La massification de la rénovation, c'est quand même assez récent. Et on voit bien tous les blocages. Muriel le disait tout à l'heure, il y a des vraies contraintes de terrain qui nécessitent une approche presque à la carte pour chaque projet. Et c'est là, je pense, qu'on a eu finalement que le besoin et notre offre a finalement bien matché, parce que la spécificité de prestataire, c'est de proposer des référentiels à la carte, un peu une offre à tiroir qui permet au maître d'ouvrage d'aller sélectionner, composer son socle d'exigences. Alors, qui vont au-delà de la réglementation, parce que le but, c'est de certifier des démarches vertueuses qui vont au-delà de la réglementation, mais voilà, de valoriser les démarches de la démarche qui va être vertueuse aux opérations les plus exemplaires. Donc ça, c'est vraiment, je pense, ce qui nous distingue de l'offre du marché aujourd'hui.
Muriel, quel est le premier constat, les premiers enseignements que vous tirez? Donc, Rénover pour demain est né en 2023, c'est ça. Depuis 2 ans, bientôt 3, quelle conclusion vous tirez justement? Quel est votre regard sur l'évolution?
Alors, on va dire ma première expérience après 2 ans de travail, c'est que la clé de la réussite d'un projet de rénovation énergétique, c'est l'accompagnement humain, social, voilà. Et pour pouvoir accompagner correctement, les propriétaires, les copropriétaires, il faut pouvoir, gagner du temps et continuer à être rentable, parce que c'est quand même important, c'est un sujet. Il faut pouvoir, standardiser des tâches très chronophages, les rendre beaucoup plus simples pour pouvoir gagner du temps et recentrer l'humain au cœur du projet. Donc on a encore pas mal de travail à ce sujet-là, mais en tout cas on avance bien, parce qu'il y a des choses qu'on peut processer de manière assez facile sur des tâches financières ou techniques.
Avec quoi? Avec l'IA par exemple ou...
Tout à fait, l'IA, pas que, nous on code en interne, c'est-à-dire qu'on crée vraiment notre outil numérique qui vient du terrain, de l'opérationnel. Et ça nous permet du coup de redistribuer ce temps à l'explication, à rassurer les personnes, à comprendre aussi en fonction de profil type, c'est-à-dire des personnes âgées ne vont pas avoir les mêmes craintes qu'un jeune couple ou qu'une famille avec 2-3 enfants, voilà, pour pouvoir rassurer tout au long du projet. Ça, c'est un des premiers constats qui est très très important.
Donc vous automatisez les tâches, à aucune valeur ajoutée, pour libérer du temps pour l'humain, pour discuter, pour justement accompagner vraiment, humainement parlant, les Français.
Oui.
Est-ce qu'on peut refaire un petit focus sur le projet Oreno, lauréat de l'appel à projet national?
Oui.
Qu'est-ce que c'est?
Donc Oreno, c'est opérateur ensemblier de la rénovation énergétique. C'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est allier une brique de financement, tiers investissement, avec une brique métier, un modèle économique complètement clé en main, qui va permettre de créer un impact fort à une rentabilité. Et pour augmenter cette rentabilité, il faut massifier les opérations. Et en massifiant les opérations, on va pouvoir avoir un impact environnemental, fort.
On réduit, plus on massifie, plus on réduit l'impact.
Tout à fait. Et plus on réduit l'impact, et plus on a des temps de retour sur investissement durable. Parce que c'est quand même important. Et l'objectif final aussi d'Oreno, c'est d'aller vers la neutralité financière pour les copropriétaires. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on ne travaille que sur des bâtiments, très performants. Donc on projette des bâtiments de rénovation d'ampleur, essentiellement. C'est pour ça qu'on travaille très bien avec prestataires. Donc on fait labelliser toutes nos opérations BBC Réno. Pourquoi? Parce que plus on a d'économies d'énergie, plus on va être rentable et moins ce sera douloureux sur le temps pour les copropriétaires.
Donc c'est important de le préciser. Et justement, concernant, parce que là, on parle de massification, donc on l'a bien compris, il faut massifier pour X raisons. Comment on enlève les freins ? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour enlever ces freins ? Parce que sur le papier, c'est bien beau, mais sur le terrain, c'est pas si évident.
Alors, le principal frein, moi, à mon sens, techniquement, c'est facile. Enfin, c'est facile.
C'est ce que je dis, sur le papier, c'est facile.
Un peu de travail. Il faut mettre en place certaines compétences, avoir la bonne démarche, la bonne vision. Mais techniquement, c'est pas très compliqué. Maintenant, c'est surtout les finances. Enfin, ça peut paraître très simpliste ce que je dis, mais si on arrive à lever le frein financier à travers une sécurisation technique et juridique, mais la sécurisation technique, pour moi, c'est juste de la coordination, en fait.
D'accord.
Et le fait d'être l'interlocuteur unique qui traduit les différents langages techniques.
Donc c'est de la communication à mettre en place,
oui.
Un process, encore une fois.
Tout à fait. Et avec l'outil numérique, ça peut aller très vite. L'outil numérique opérationnel qu'on crée, en fait, vient se coller à tous les partenaires de l'intégralité de la chaîne de valeur, à toutes leurs API, qui ont été créées, on va dire, avec leurs propres exigences, mais qui ne cochent pas les cases de l'opérationnalité. Donc, nous, notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les cases soient cochées à travers nos travaux de terrain. Et tout ça va permettre en fait de créer des plans de financement très 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 précis avec un programme de travaux très précis. En fait, le principal frein, c'est qu'on n'arrivait pas jusqu'à aujourd'hui à créer des programmes de travaux précis. Donc en fait, ça découlait en cascade des problématiques inhérentes forcément sur les financements. Les particuliers ne savaient pas exactement combien ça allait leur coûter. Donc comment, on va dire, voter, s'engager dans des travaux quand on ne sait pas combien ça va coûter. Il y a une différence entre 10 000, 15 000, 20 000 ou 40 000.
Oui. Voilà. Ouais, bien sûr.
Et les entreprises travaux, parallèlement, du coup, ne peuvent pas chiffrer correctement aussi les travaux à réaliser quand on n'a pas de cahier des charges précis. Donc ça, pour moi, c'est un des principaux freins sur lequel on
travaille. Donc c'est le premier, en fait.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous vouliez rebondir peut-être, Karine, sur ces freins, justement ?
Eh bien, disons que nous, ces freins-là, on les a identifiés il y a longtemps. C'est aussi comme ça qu'est née, finalement, notre offre. Voilà, à la carte, parce que la construction, déjà, en fonction du territoire, en fonction des objectifs, des maîtres d'ouvrage, des territoires et des contraintes, tout simplement liées au climat, etc., font qu'on ne peut pas faire une certification identique partout. Mais dans la rénovation, c'est encore plus vrai, encore plus marquant. Donc, effectivement, je pense que le principal frein, ce serait d'essayer d'imposer un cahier des charges immuable pour toutes les opérations. C'est pas possible. En rénovation, c'est absolument pas possible. Donc, nous, on est au service d'eux. Et notre référentiel doit être au service de tous les acteurs autour. Et après, je voulais rajouter aussi que ces freins, on les lève en travaillant tous ensemble. Aujourd'hui, on a invité Guillaume Meunier. C'est pas neutre non plus parce qu'on fait partie du Hub Bas Carbone et il y a de nombreux échanges avec nos équipes, sur les sujets, sur les analyses, sur l'analyse de cycle de vie. Et c'est en échangeant et en travaillant dans les groupes de travail, AGT Construction, Cap 2030, on participe à tous ces groupes de travail et ça permet en fait d'échanger sur les freins et de faire avancer les choses. Ça peut pas se faire de manière isolée.
Oui, besoin de passer de l'innovation isolée à une méthode partagée, commune à toute la filière. Et justement, on va en parler, comment structurer la filière et préparer les cadres techniques de demain. Guillaume, vous travaillez justement à cette structuration via le hub des prescripteurs bas carbone. C'est ce dont vous venez de parler, Karine. Et sur l'application de la démarche E plus C moins à la rénovation, pouvez-vous nous expliquer du coup ce que ça recouvre concrètement et quelle est la démarche justement et comment vous allez aider la filière à s'aligner. J'adore vous poser plein de questions.
je devrais noter.
Il faut qu'ils s'en souviennent.
Oui, c'est ça.
Non, c'est parce qu'après, j'ai peur d'oublier. Donc,
Alors, le hub des prescripteurs bas carbone, c'est une centaine de membres.
Ouais.
Souvent, c'est quand même ceux qui veulent faire bouger les lignes. Et assez vite, je dis, c'est les meilleurs qui veulent faire bouger les lignes.
C'est des acteurs engagés.
C'est des acteurs engagés.
Passionnés.
Merci. L'objectif initial, c'était la question de comment décarboner le bâtiment neuf. Mmh. Le neuf, c'est un peu souvent plus facile finalement, il y a moins de contraintes globales, on en a un peu parlé. Assez vite, les membres se sont dit, c'est sympa, on fait des trucs très bien, mais il y a quand même ce sujet de la rénovation qui nous titille, et on sent qu'on a appris beaucoup de choses sur le neuf, est-ce qu'on peut le répliquer sur la rénovation ? À ce moment-là, quand on a regardé, il y avait une étude qui était très intéressante, mais qui datait un peu de l'association HQE, qui a fait une étude sur la rénovation bas carbone. On s'est dit, bah ok, on fonce là-dedans, on essaye de réfléchir, ça veut dire quoi, rénover bas carbone. Donc il y a eu des acteurs qui se sont très vite manifestés en disant, moi je veux qu'on teste sur des bâtiments. Et depuis maintenant plus de deux ans, on fait des tests sur des projets détaillés, sur un ensemble de données globales. On essaye d'apprendre, ça veut dire quoi bas carbone, c'est quoi les ordres de grandeur, c'est quoi les freins. Et donc on a fait ça, je pourrais en parler, mais assez vite on s'est dit, bon ben c'est bien, mais quand on regarde en France, il n'y a pas de méthode pour faire une ACV en rénovation. Il y en a quatre qui coexistent, alors il y en a plus utilisées que d'autres, mais c'est un peu gênant.
ACV, analyse de cycle de vie. Hein.
Merci, pour calculer l'impact carbone ou à quel point j'abîme la planète, c'est bien ça dont on parle. Et on s'est dit, c'est un peu gênant, il n'y a pas de cadre. Alors nous, on a proposé un cadre, on a travaillé avec le CSTB qui est membre, mais il y avait quand même un blocage. Et on me disait, mais c'est quoi la bonne méthode dans les quatre? Alors, moi, je suis un peu gêné, je n'allais pas dire c'est celle-là la bonne méthode. Souvent, surtout que sur ces quatre méthodes, il n'y en a aucune qui était compatible avec l'Aéro 2020.
D'accord.
Et on voit bien que beaucoup d'acteurs font de l'Aéro 2020 et commencent à avoir des ordres de grandeur, des habitudes. Hein, quand on parle d'ACV dynamique à des gens qui font de l'Aéro 2020, ils comprennent ce que ça veut dire. Là, peut-être que les auditeurs ne comprennent pas, mais si vous travaillez sur du neuf, vous savez ce que c'est, avec des chiffres, etc. Et donc on s'est dit, du coup, au sein du hub, on va réfléchir à réfléchir à une méthode. Et c'est un peu la manière dont j'aime bien travailler, c'est que ce qu'on fait au sein du hub, c'est qu'on essaye, pour faire bouger la filière, on essaye de le diffuser le plus largement possible. Hein. Je dis souvent, ce qu'on produit, 90% de ce qu'on produit est public. C'est un peu comme ça qu'on espère faire bouger les lignes. Et on s'est dit, pour l'instant, il n'y a pas le fameux E plus C moins. Alors, faut peut-être se souvenir, le plus C moins, c'était un label qui est sorti de mémoire en 2013 ou 2014, qui est vraiment dans son sous-titre, c'est label expérimental. Ça, à un moment donné, on l'a un peu oublié, mais c'était vraiment expérimental, pour préfigurer l'Aéro 2020. Et c'est bien, on a testé plein de choses, on s'est aperçu qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis ensuite, sur la base de tout ce qu'on a appris, de ce que les assos ont travaillé, etc., on a fait l'Aéro 2020 avec plein de changements. Voilà. Et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas la même chose ? On essaie de se mettre tous ensemble d'accord, la filière du bâtiment, on a une méthode pour faire des ACV, et puis on va la tester pendant 2-3 ans, et puis à terme, quand on sera bien prêt, qu'on sera carré, on pourra se dire, on en fait une réglementation. Et donc c'est ça qu'on essaie en train de faire en ce moment, c'est de se dire pourquoi on essaye de pas imaginer une E plus C moins de la rénovation. D'abord au sein du hub, parce que l'avantage c'est que je connais tout le monde, c'est un petit comité, on peut avancer très vite et on règle plein de problèmes. Et puis j'ai bon espoir d'ici quelques mois, ou on va dire début d'année prochaine, se dire voilà le cadre que propose l'association IFPEB, le hub de prescription bas carbone. J'en discute avec les autations et on y va et on s'embarque et on lance le label le plus c'est moins de la rénovation et on apprend et dans 3 ans on a la blague c'est la Réno 2030 hein, si on fait un rétroplanning. Non mais donc c'est ça, l'objectif c'est ça. Peut-être ce qui peut être intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent depuis ces 2 années de travaux ? On a appris un point fondamental sur la rénovation, c'est qu'une rénovation énergétique n'est pas bas carbone. Et plus exactement, n'est pas intrinsèquement bas carbone. C'est pas parce que je fais une c'est pas parce que je fais une rénovation énergétique que je fais une rénovation bas carbone. C'est 2 choses distinctes. L'exemple. Tarte à la crème, mais dans les chiffres, c'est flagrant.
C'est-à-dire le geste de rénover, c'est ça ?
Voilà, je fais une super bonne rénovation énergétique. Et ce qui est génial, c'est que quand je fais ça bien, et même sans exagérer, pas dépasser des objectifs incroyables, quand je fais ça très bien, j'arrive à consommer très peu d'énergie, quasiment autant que du neuf. Ça, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que maintenant, techniquement, les gens savent faire. L'objectif, il y a 10 ans, qu'on disait « je vais faire une rénovation exceptionnelle, elle va consommer autant que du neuf », aujourd'hui, c'est presque courant. Mais sauf que quand je fais ça, vous demandez à peu près n'importe quel acteur, s'il a du gaz, il va garder le gaz. Parce que c'est plus simple, c'est pas compliqué, j'ai une chaufferie gaz, je la remplace, j'ai le même local, j'ai pas de problème. Sauf que si je fais ça en termes de bilan carbone, on est nettement supérieur à une démolition-reconstruction. Et alors, on a envie de se dire, il y a quand même un problème, parce que démolition, reconstruction, on sait, et on l'a démontré, qu'en termes de d'impact de ressources, combien de je prélève de ressources, c'est quand même nettement moins bien. Mais si à un moment donné, on commence à dire que, d'un point de vue carbone, vaut mieux démolir, reconstruire, on a un problème. Donc ça, c'est un point important. Et si par contre, vous passez du gaz à une source décarbonée, qui est le pompe à chaleur, géothermie, tout ce qu'on veut de décarboner, à ce moment-là, on dépasse très nettement la démolition en construction. On est vraiment très bas carbone. Donc on est plutôt proche niveau 2031, voire meilleur, sachant que sur certains usages, on ne sait pas tout à fait encore comment atteindre 2031. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas parce que je fais une rénovation énergique que je rénove bas carbone. Et effectivement, ça peut surprendre quand je le dis. C'est pas complètement illusoire.
En fait, il faut penser à l'échelle du logement et à l'échelle de la planète. Ce sont deux choses différentes.
C'est ça. C'est je réduis mes consommations d'énergie et c'est un peu l'enjeu facture, mais je décarbone et je décarbone et l'énergie et la matière. Donc, l'autre grande information qu'on a eue, c'est que passer d'une rénovation énergétique à une rénovation bas carbone, c'est pas si compliqué que ça en vrai. Déjà, on a un peu tous l'habitude sur le neuf. Donc,
Pour vous, mais...
voilà. Mais globalement, ça veut dire que je réduis mes consommations d'énergie, ça, y a plein d'autres effets bénéfiques. Deux, je fais attention à la matière que je mets.
D'accord.
Voilà, et une fois que j'ai fait ça, bah, je suis bon, quoi, je suis pas mauvais. Et une fois que j'ai fait ça, on retombe un peu dans les sujets du neuf, qui est de dire, la matière que je mets, elle est quand même... On en met beaucoup de matière. Si vous voulez, des ordres de grandeur, donc ça c'est un peu la deuxième étape qu'on a finalisée il n'y a pas très longtemps, et c'est, là du coup pour l'instant j'en ai discuté à personne, c'est pas public ce que je vais vous dire, c'est que quand on a analysé une trentaine d'ACV rénovation, l'impact de la matière, elle est, de manière assez logique en réalité, elle n'est pas si éloignée que dans du neuf quand on fait une rénovation lourde. Donc quand vous faites une rénovation lourde, vous mettez tellement de matière que le chiffre, donc, qui est de l'ordre de 500 kg de CO2, est assez proche d'un 600 kg de CO2 quand je fais du neuf.
D'accord, quand il y a une construction neuve.
Exactement. Et donc ça, c'est des chiffres récents. On a fait une analyse sur l'observatoire du Hub. Et donc ça, ça veut dire, le sous-jacent de ça, ça veut dire qu'on sent bien qu'il y a un enjeu très fort à assez vite cadrer cette matière. Et que cet objectif de viser un plus et moins de la rénovation, il va devenir important, parce qu'à un moment donné, notre impact carbone, je vous ai dit au début, c'est le sujet en France, c'est l'énergie de l'existant et un peu la matière. À un moment donné, ça va être la matière tout court. Et quand je dis ça, il y a quelques acteurs qui me disent « Ah mais Guillaume, encore une réglementation, tu nous embêtes, tu nous enquiquines, on n'est pas prêt, etc. » Sauf que si vous demandez à beaucoup d'acteurs, et pas que les membres du Hub, même à ceux qui sont... Tous sont d'accord pour dire que j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de caler la performance, donc le sujet qui a été dit, j'ai besoin de pouvoir cadrer ma performance sur le carbone, sur la rénovation. Pas tellement pour se poser des contraintes, mais plutôt pour se dire, je sais le faire sur le neuf, pourquoi je ne le fais pas sur la rénovation? Les gens commencent à être formés, il faut que j'y arrive. Je sais que c'est bien pour la planète, et je sais que intellectuellement, quand j'arrive à décarboner, assez souvent, ça va quand même avec des réductions de coûts, parce que la première règle en décarbonation, c'est je mets le moins possible. Quand je mets le moins possible, on est content, je mets le moins possible, souvent il n'y a pas les coûts qui vont derrière. Donc ça, c'est tous les travaux qu'on mène. Dans les autres enseignements qu'on a eus, c'est la très bonne nouvelle, c'est qu'une fois que j'ai décarboné l'énergie, j'ai réduit mes consommations d'énergie, je suis largement aussi bien que du neuf, voire mieux en réalité, en énergie. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle, c'est j'ai
donc
décarboné...
Donc mieux que le neuf à ce moment-là.
Voilà. Dans les enjeux qu'il faut qu'on analyse, c'est qu'on va commencer à regarder, c'est où est-ce qu'on fixe les seuils. Est-ce que c'est bien? Est-ce que les 500 kg de CO2, par exemple, c'est bien ou pas? On sent qu'au-dessus, c'est pas terrible, mais est-ce qu'on dit pas 550? Dans les autres enjeux, j'en ai un petit peu parlé, c'est ce qu'on voit qui est très clair dans le neuf, c'est que quand je veux satisfaire un confort d'été, je vais avoir tendance à rajouter de la matière. Rajouter des protections solaires, puis aller, pourquoi pas, jusqu'à une clim. Voilà, jusqu'à la clim.
Des brasseurs d'air.
Donc je rajoute de la matière, je rajoute du carbone. Ouais. Ça peut être en énergie, mais ça peut être en matière. Et donc un des enjeux, ça va être aussi de dire, peut-être que si je fais une rénovation énergétique qui est très favorable au confort d'été, je vais peut-être avoir le droit à un bonus carbone, parce que franchement, je vais mettre plus de carbone. D'accord, et c'est très bien pour les utilisateurs.
Donc en fonction de l'objectif, peut-être revoir le quota.
Exactement, et se dire que j'ai le droit à un petit paquet de 30 à 50 kg de CO2, parce que j'ai mis des protections. protection solaire, avec une moustiquaire, et que tout ça, ça.
Donc ça prouve qu'il faut encore une fois une analyse fine du terrain. Et pour la réglementation, on a besoin d'avoir des remontées terrain, on a besoin d'avoir.
Et du coup, on a besoin d'un cadre global à l'échelle de la France. Qui serait une expérimentation, un peu plus et moins, mais au moins on est tous d'accord sur la manière dont on compte, sur comment, ce qu'on compte, ce qu'on compte pas, etc. On se met tous d'accord, on est souvent, et puis on avance, et puis on fait le label le plus et moins avant d'avoir le RE 20, il y a eu presque 7 ans.
Oui.
Donc là, mon objectif personnel, c'est d'aller quand même plus vite parce qu'on a largement appris, mais on se dit en 2-3 ans, on peut se faire des super retours d'expérience et on aboutit à une règle et on inclut le confort d'été, tous les sujets qui émergent aujourd'hui.
Globalement, est-ce que ça permettra donc de processer la rénovation énergétique, de massifier cette rénovation énergétique? C'est quand même ça le but.
C'est ce qu'on a vu, c'est que les cadres, en fait, contrairement à ce qu'on pense, un cadre, ça facilite les choses parce qu'on réfléchit moins. Et en plus, vraiment, là où j'insiste, c'est qu'on réplique tout ce qu'on a fait sur le neuf. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui se disent « Ah, mais la rénovation, c'est compliqué. » Ouais, mais si on a quasiment les mêmes cadres en neuf, en réno, si par exemple, ce qui est compliqué en ce moment, c'est que quand vous faites une surélévation ou un agrandissement, vous appliquez l'ARE 20 dans un coin et rien du tout dans l'autre. Si on a le même cadre, ça va être facile. On fait une RE 20-20, un calcul global, ben, on a le même cadre, on va plus vite, il n'y a pas besoin d'avoir une complexité. Donc, en réalité, il ne faut pas penser à un cadre comme une contrainte, c'est chiant, je dois faire des calculs. Si on a tous le même cadre et qu'on a tous appris à s'en servir, il n'y a pas de raison qu'on aille au contraire plus vite, parce que le cadre permet de s'enlever plein de choses, plein d'embêtements. Je sais que je dois faire des efforts, je sais que je dois mettre des matériaux plutôt bas carbone, etc. Parce que faut bien se dire, c'est que tous les grands acteurs, même les petits, ont un peu leur liste maintenant de matériaux où ils aiment bien les poser parce qu'ils les connaissent, ils ont la truite, et parce qu'ils savent que c'est bas carbone. Et que maintenant, ils commencent à se dire « Ah mais aussi, est-ce que c'est bien pour le confort d'été ?» Donc si on met le même cadre, on va aller plus vite.
Alors après, attention, parce que les cadres évoluent très souvent aussi, c'est ça qui est reproché ce matin. Moi, j'avais des retours dans ce sens-là. Je parle des entreprises du bâtiment. C'est vrai qu'il faut faire aussi attention à trop de cadres, trop souvent.
Oui, mais c'est pour ça, la vision que je dis, c'est un objectif
une
à 4 ans.
Une vision pérenne.
L'aéro 20-20, il faut bien se dire, c'est que donc on y a réfléchi pendant presque 7 ans avec le plus et moins, et ces objectifs, ils s'échelonnent sur 12 ans quasiment. Donc effectivement, on a besoin d'apprendre, mais c'est ce qui a été fait avec l'aéro 20-20, c'est exactement ça. C'est notre objectif sur la rénovation.
Alors Karine, pour massifier sans perdre en qualité, la certification devient un pilier essentiel. Quel rôle, vous pouvez nous rappeler le rôle de la certification concrètement dans cette transformation du marché? Comment les référentiels permettent-ils de fiabiliser les démarches et de garantir la performance réelle des bâtiments et des rénovations?
Comme je le disais tout à l'heure, les référentiels, en fait, nos labels, ce sont des cahiers des charges dans lesquels vous avez des exigences avec un nombre de points. Les certifications sont délivrées moyennant l'atteinte d'un certain nombre de points, et ça, c'est par référentiel. Et ces points sont donnés qu'à des exigences qui vont au-delà de la réglementation. Donc, le principe d'une certification, c'est de certifier la performance qui va au-delà de la réglementation et donc de valoriser les opérations finalement vertueuses, les démarches vertueuses. C'est ce que permet le référentiel. Comme l'a dit Guillaume, ça offre un cadre structurant qui va permettre au maître d'ouvrage de suivre sa démarche. On va contrôler les exigences de la conception jusqu'à la livraison du bâtiment. Donc ça permet de donner un REX constant sur là où on en est, de mesurer, on a des indicateurs qui sont concrets. Et donc, derrière, on peut... Rex, retour d'expérience, je sens que tu...
Pour les auditeurs.
Mais en gros, c'est ça la certification. Ouais. C'est valoriser et récompenser la performance réelle et pas seulement l'intention. Parce qu'on peut tous partir au début des travaux en disant je veux faire ça, on va faire tel label, on va atteindre telle performance, on veut produire plus d'énergie qu'on en consomme, etc. Mais le juge de paix, à la fin, c'est celui qui valide que quand le bâtiment il est livré, eh bien, les exigences qui ont été visées, elles sont réellement atteintes. C'est la raison pour laquelle la plupart des financements, hein, on le voit avec Justine Frostin, que tu as eu sur ton plateau la semaine dernière, mais qui est au contact des collectivités, de plus en plus, les financements, les aides, les subventions sont associés à une certification. parce que c'est un tiers de confiance finalement, c'est un gage de confiance pour les financeurs et c'est l'assurance de diriger des aides vers la performance réelle et pas l'intention. Donc ça c'est très important.
Et puis, donc ça donne de la crédibilité, de la confiance
évidemment,
en fait.
Et puis la crédibilité elle vient de la méthode et puis du fait évidemment qu'on est un organisme accrédité par le COFRAC. Ça sous-entend que tous les ans, nous sommes audités, tout notre process de certification. D'ailleurs, tu as annoncé une bonne nouvelle, nous aussi. On a eu notre audit de renouvellement et on est renouvelé jusque 2030. Donc, tu vois, peut-être qu'au cap 2030, on aura atteint tous les objectifs. Tant mieux, on aura fait le job. J'espère qu'on sera renouvelé après. Mais en tout cas, c'est un vrai, pour nous un vrai gage de confiance et la preuve du travail qu'on fait. De notre légitimité, de la légitimité des équipes chez Prestataire. Donc voilà, c'est important pour nous. Et la certification, voilà, on met tout en œuvre chez Prestataire et dans nos référentiels pour que ce ne soit pas vécu comme une contrainte, mais vraiment que ce soit plutôt un levier de performance, une opportunité.
Et alors, Karine, pour terminer, peut-être un petit mot sur la présence de prestataires certification au forum Rénodez. Qu'est-ce que vous attendez de ce forum? Vous êtes là pendant 2 jours. On parle beaucoup de massification, de rénovation énergétique, on parle beaucoup de la période, du climat. Quels sont vos objectifs durant cet événement?
Eh bien, de nous faire connaître davantage, parce que même si on existe depuis 2008 et qu'on est accrédité par le COFRAC depuis 2012, on a quand même plus de 2800 opérations en cours de certification, donc c'est pas anecdotique. La plupart des bailleurs et promoteurs nous connaissent, bien évidemment. Mais voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de partenaires, des bureaux d'études, des architectes qui ne connaissent pas, qui ne voient peut-être pas parfois une alternative plus pragmatique, plus adaptable, et notre volonté est de se faire connaître et puis de faire en sorte que la massification s'enclenche. Voilà.
Et bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois pour ces échanges, pour votre expertise. On est toujours en direct de la Porte de Versailles pour Rénodez pendant 2 jours. Seconde édition, on vous fait vivre ce forum. À tout de suite sur nos antennes.
Rénodays, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.